Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Le centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, en région bruxelloise, accueille actuellement une exposition intitulée Moving Beyond Borders, bouger au-delà des frontières, une exposition que l'on doit au réseau Migre Europe, un réseau qui rassemble des dizaines d'associations à travers le monde, mobilisées autour de la question des migrations, un sujet sensible et complexe, la presse nous le rappelle presque tous les jours. Mais comment aborder cette question au-delà des postures idéologiques? Comment gérer avec humanité et réalisme les cas individuels de ces milliers de migrants qui affluent vers l'Europe, bien souvent au péril de leur vie? La politique de l'Union européenne en la matière doit-elle évoluer? Et si oui, vers quoi précisément? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités. François de Smet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et vous êtes également le directeur du Centre fédéral Migration. Vous nous rappellerez d'ailleurs dans quelques instants quelles sont les missions du centre créé voici un an et trois mois, quelque chose comme ça. Alexis de Soir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, vous êtes également le président de la Ligue des droits de l'homme, une des associations belges membres de Migre Europe. Sarah Prestiani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes administratrice chez Migre Europe, mais vous êtes aussi photographe. On peut d'ailleurs découvrir votre travail dans cette exposition Moving Beyond Borders qui se tient actuellement au Centre culturel Jacques Franck. Alors, pour commencer, expliquez-nous peut-être en quoi consiste précisément cette exposition.
L'exposition Moving Beyond Borders qu'on peut découvrir en séjour ici à Bruxelles et qui a une vocation absolument itinérante, et donc on espère que d'autres pays et d'autres citoyens européens et pas qu'européens vont les découvrir dans les prochains mois. C'est une exposition qui veut raconter les parcours des migrants, mais veut aussi raconter les entraves que les politiques européennes mettent en place pour bloquer ces parcours des migrants. C'est là en Europe, mais aussi au-delà des frontières européennes. L'exposition Moving Beyond Borders, c'est une exposition qui mélange différents outils, qui veut être un instrument aussi politique, de sensibilisation, d'information, tout en gardant un volet profondément artistique. Cette exposition, c'est un mélange des cartes qui essayent de faire comprendre la mise en place de ces contrôles des politiques européennes tout le long des nombreuses années des politiques européennes, donc bien en Europe et au-delà de ses frontières, mais aussi des photographies qui racontent les effets de ces politiques de contrôle sous la vie des migrants, sous la vie des hommes, des femmes, des enfants qui essayent de franchir nos frontières pour rejoindre nos territoires avec beaucoup de difficultés.
Alors justement, parmi ces photos, il y a certaines de vos photos, il y a également d'autres photographes qui sont exposés. Concrètement, votre travail de photographe, vous avez réalisé plusieurs reportages, c'est, j'imagine, de ces reportages que vous rapportez ces photos.
Oui, c'est un travail des 10 ans, des travaux photographiques autour de la question de la migration, autour notamment de la question des frontières.
Où êtes-vous allé?
Je suis allée dans les principaux ports d'Europe, à Melilla, à Lampedusa, nombreuses fois, en Grèce, mais aussi où les effets des politiques européennes sont de plus en plus présents et forts, en Turquie, en Libye, au Maroc, au Mali, au Niger, dans tous ces pays où les entraves des politiques européennes empêchent l'arrivée, où les migrants sont mis à l'écart, où les conséquences des politiques européennes sont plus loin des yeux des Occidentaux, mais autant présents.
Quelles sont concrètement les conséquences de ces politiques justement sur ces migrants que vous avez photographiés?
Les conséquences, c'est des vies troublées par ces parcours migratoires, c'est des longues années, de longs mois passés à traverser la mer, à traverser les déserts, à essayer de franchir continuellement des frontières, à être refoulé souvent de façon illégale, à devoir amener ses propres enfants sur un petit bateau qui traverse les canals des Siciles ou la mer Égée ou encore l'étroit de Gibraltar. Des conséquences non tragiques sur, du point de vue psychologique sur la vie des personnes, et aussi des conséquences très dures dans tout ce que c'est l'habitat, parce que justement cette mise à l'écart fait que les migrants sont souvent obligés à vivre dans des campements, et c'est là on les voit très bien au-delà de l'Europe, mais on le voit aussi ici en Europe. Une des développements de mon travail photographique, c'est autour des campements en Europe. Je pense à Patras, je pense à Paris, je pense encore à Calais.
Alexis de Soif, je le rappelle, vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme, qui est donc une des quatre associations membres belges, membres de Migre Europe. On peut d'ailleurs citer les autres. Hein. Il y a aussi le CNCD, le CIRE et le syndicat des avocats pour la démocratie. Alors, on l'entend bien, dans cette exposition Moving Beyond Borders, il y a toute une partie plaidoyer. Concrètement, quel est le message que vous voulez envoyer à destination de l'Union européenne, tout d'abord?
Mais d'abord, une belle photo,
une carte, une expo comme celle-là, parfois c'est mieux qu'un long discours ou qu'une plaidoirie technique. Parce qu'on confronte le spectateur avec cette dure réalité et très souvent il y a parmi les citoyens de bonne foi une ignorance en disant « ça, ben, on ne savait pas que ça existait ». Et le mérite de photos très prenantes comme ça, c'est de nous confronter avec une réalité qu'on n'imagine même pas parce que cette place-là, cette souffrance, elle prend trop peu de place dans les médias. Les journaux télévisés nous montrent ces migrants qui arrivent, etc. C'est des questions complexes, ces questions migratoires. Et trop souvent, nos responsables politiques, nos ministres, le secrétaire d'État Asile Migration, arrivent avec des réponses simplistes, voire populistes. Et les politiques européennes, et on le voit à la Ligue des droits de l'homme, on insiste là-dessus, ces politiques européennes mènent à l'impasse. Avec beaucoup de souffrance de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, on peut prendre l'exemple des centres fermés. Depuis des années, la Ligue des droits de l'homme plaide pour la suppression des centres fermé. Le coût financier et le coût humain est beaucoup trop important pour le résultat escompté par nos gouvernants. Et donc, c'est une réalité que trop souvent on ignore. Ça se passe à 10 km d'ici, en bord de piste à Zaventem. Et si les gens savaient mieux ce qui s'y passait, vraisemblablement qu'ils diraient « ah non, pas ça, pas en notre nom ». Et le mérite d'une expo comme celle-là, c'est de montrer ça et de dire « il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, et les politiques européennes qui ont montré leurs limites, voire les dégâts qu'ils causent, il faut peut-être penser à faire autre chose vu que ça ne marche pas, alors que ce qui est sur la table pour l'instant, c'est de faire encore plus de ce qui ne marche pas, on pourra y revenir.
Alors faire autre chose, mais précisément faire quoi ?
Mais d'abord, la première réponse doit être humanitaire. Quand on voit les noyés en Méditerranée, la première réponse doit être humanitaire. Et on voit, depuis les drames qui se sont déroulés depuis le début de l'année, qu'il y a une amélioration à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la réponse, tant de l'Europe que des États, est avant tout sécuritaire. En disant, on va s'attaquer aux trafiquants, à ces réseaux criminels. Mais en perdant de vue que ces trafiquants, ces réseaux criminels, c'est la conséquence des politiques migratoires européennes où il y a la forteresse Europe. L'Europe est fermée et donc quelqu'un qui a envie de quitter son pays ou qui a besoin de quitter son pays ne peut que faire appel à ces réseaux clandestins, criminels, de trafiquants d'êtres humains qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et donc on ne peut pas encore plus fermer la porte, on doit prévoir des canaux légaux d'immigration pour justement couper l'herbe sous le pied de ces réseaux criminels.
Vous dites on ne peut pas garder la porte totalement fermée, mais faut-il l'ouvrir totalement pour autant, Alexis de Soif ?
C'est un beau débat. Quand on voit les dégâts de la politique migratoire actuelle, on peut se demander si on ne doit pas davantage réfléchir à une forme de liberté de circulation. Il y a des expériences de liberté de circulation dans des zones régionales, par exemple l'Europe, par exemple l'Afrique de l'Ouest, qui fonctionnent très bien et qui, malgré les craintes initiales, rappelez-vous l'élargissement de l'Union européenne, les détracteurs disaient « ça va être l'envahissement des gens de l'Est vers l'Ouest ». Il y a eu des déplacements, mais il n'y a pas eu d'envahissement. Pourquoi ? Une des principales raisons, c'est que quand on ouvre les vannes au niveau de la liberté de circulation, les gens savent qu'ils peuvent retourner, qu'ils peuvent faire des allers-retours, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi à pénétrer dans la forteresse Europe n'a qu'une envie, c'est d'y rester, parce qu'elle sait bien, si elle repart, qu'elle ne pourra jamais y revenir. Et donc, ceux qui défendent l'idée de la liberté de circulation disent il faut y aller pas à pas. D'abord, des visas court séjour, une liberté de circulation. Est-ce que vous trouvez normal qu'un tiers de l'humanité peut circuler librement dans le monde et deux tiers de l'humanité est enfermée chez elle? Non, ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter cela. Et donc, commençons par des visas court séjour en les octroyant. Moi, dans ma pratique d'avocat, je suis parfois sidéré de voir un couple de Belges d'origine congolaise, que j'ai encore vu la semaine passée, qui avait demandé que la mamie au Congo, qui n'a jamais vu les quatre enfants qui sont nés ici, puissent voir les quatre enfants. Ils ne savent pas payer 6 billets d'avion pour aller dire bonjour pendant les vacances au Congo. Et par contre, la mamie qui demande un visa court séjour pour 3 semaines de vacances, on lui refuse en disant « risque migratoire ». Tous les visas court séjour sont refusés « risque migratoire ». Et donc, il y a de réelles injustices au quotidien qui, c'est absolument inacceptable.
François de Smet, vous êtes, je le rappelle, le directeur du Centre fédéral Migration. Alors avant de vous poser ma question, expliquez-nous tout d'abord en quoi consistent les missions de ce centre.
Oui, c'est une question légitime parce qu'on n'est pas encore très connu et pour cause. Légalement, nous existons depuis le 15 mars 2014. En fait, nous sommes l'une des deux organisations héritières des compétences du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui n'existe plus techniquement. Il est remplacé par deux organismes, mais qui se répartissent ses compétences. Vous savez, le Centre interfédéral, qui est en masse critique le plus gros des deux organismes et qui continue à lutter contre les discriminations au sens large. Et vous avez le Centre fédéral migration, qui a trois missions légales de base. Veiller aux droits fondamentaux des étrangers, donc on va pouvoir en parler. Renseigner le gouvernement et les autorités de manière générale sur l'ampleur et la nature des flux migratoires. C'est une mission de recherche, d'accumulation et de traitement de données chiffrées que nous faisons là où se trouvent ces chiffres. Donc on a une série de partenaires institutionnels ou autres et de partenaires universitaires avec qui nous travaillons sur cette mission. Et on a aussi une mission en termes de stimulation de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, domaine dans lequel nous pouvons aussi aller en justice et nous porter partie civile. Alors nous sommes supposés être indépendants, comme le Centre interfédéral d'ailleurs. Nous le sommes encore plus que l'était le Centre pour l'égalité des chances, puisque c'est le Parlement qui nomme les membres de notre conseil d'administration, qui lui-même choisit ses dirigeants. On est encore dans une phase de mise en place. Moi-même, je ne suis là que depuis 2-3 mois. Et nous allons sortir, je donne rendez-vous aux gens que ça intéresse, en septembre, avec à la fois un nouveau nom, notre rapport annuel. Donc on a un rapport qui agglomère deux de nos missions, les chiffres et les droits, sous forme de recommandations aux autorités de manière générale, mais aussi, on peut imaginer, à d'autres opérateurs. On peut imaginer, en termes de liberté de circulation, avoir aussi des choses à dire aux employeurs, aux syndicats, aux partenaires sociaux, par exemple. Donc nos recommandations s'adressent à tout le monde. Et on va sortir donc tout début septembre avec ce nouveau nom, un site web, cette nouvelle identité et ce rapport. Voilà, donc on est ni une ONG, ni une administration. On est supposé être un petit peu au-dessus du lot. Alors, ce n'est pas facile sur des missions pareilles, donc on va devoir prendre une certaine place. Ça veut dire qu'on peut collaborer avec le gouvernement et les autorités si besoin est, si c'est constructif, mais on peut aussi les critiquer, notamment sur le respect des droits fondamentaux, si c'est nécessaire. Donc voilà, c'est une place à prendre qui existait. L'équipe que je dirige existait au sein du Centre pour l'égalité des chances.
Mais justement, pourquoi avoir créé une entité indépendante? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la création de ce centre, en fait?
Alors, on a commencé par dire que la migration était une matière extrêmement complexe. Elle agglomère des éléments politiques, sociaux, économique, je crois aussi philosophique et anthropologique. Il y a quelque chose de la peur du sédentaire contre le nomade dans tout ce qui nous occupe. Je crois que le législateur et l'exécutif ont eu l'impression que les compétences du Centre pour l'égalité des chances devenaient peut-être trop disparates. C'est vrai que c'est pas toujours évident de parler de la même voie de lutte contre les discriminations, mais aussi des questions migratoires. Il peut y avoir des conflits entre les matières, et je crois que ça correspond aussi, c'est mon interprétation personnelle puisque je n'étais pas dans les gens qui ont fait la loi, je crois aussi que c'est la montée en puissance, pour le pire, mais peut-être aussi surtout pour le meilleur, de la prise de conscience de la question migratoire. Elle se fait aussi au niveau politique. Nous avons, on peut penser ce qu'on veut de leur action, mais nous avons des secrétaires d'État ou des ministres dédiés à la politique de l'asile et à la migration, alors qu'il y avait un refoulement pendant longtemps, que ces compétences étaient, vous les trouviez sous les compétences du ministre de l'Intérieur ou de la Justice avant. Donc, il y a un débat migratoire qui s'impose de plus en plus, et nous en sommes l'une des conséquences, avec le fait qu'il y ait des portefeuilles dédiés spécifiquement à cette question, ce qui, de mon point de vue, est un progrès, parce que du coup, on voit la migration comme elle est, et pas simplement, par exemple, comme une compétence du ministre de l'Intérieur qui doit nous protéger de hordes sauvages, par exemple. Et donc, il y a un progrès aussi dans le débat migratoire dans lequel on a envie d'apporter notre poids. Ce n'est pas notre boulot de dire quelle est la politique migratoire à dire, c'est notre boulot de dire, voilà, quelle que soit la politique choisie, elle doit se faire sur le respect des droits fondamentaux et sur des données chiffrées claires.
Alexis de Soif, François de Smet vient de nous rappeler qu'il y a encore quelques années, la question de la politique migratoire est effectivement de la compétence du ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est une avancée, selon vous, aujourd'hui, qu'il existe un secrétaire d'État à la politique migratoire et à la politique d'asile et de migration?
C'est une question piège. Ça peut être une avancée.
C'était pas l'objectif, mais...
Ça peut être une avancée et ça peut être un recul. Figurez-vous que cette revendication figurait dans le 70-Punten Plan du Vlaams Blok dans les années 90, qu'il fallait créer un ministère spécifique à l'immigration. On l'a aujourd'hui, heureusement pas avec la même vision que le Vlaams Blok à l'époque, Quoique parfois, on peut se poser la question quand on voit ce que le responsable qui occupe ce portefeuille...
Theo Franken, NVR.
Theo Franken, Marie de Blocq avant. Souvenez-vous, Marie de Blocq qui communique très très bien, elle n'arrêtait pas de dire par rapport à ses compétences « je suis ferme mais humaine », avec une manière de l'expliquer qui relève du bon sens, etc. Ça plaît aux téléspectateurs quand on voit ça au journal télévisé. Sur le terrain, nous avons vu que la fermeté de quelqu'un comme Marie de Blocq. On n'a jamais vu l'humanité dans les décisions qu'elle peut prendre, sachant que le secrétaire d'État Asile et Migration a voulu historiquement conserver un pouvoir discrétionnaire, par exemple sur les dossiers de régularisation de séjour pour raisons humanitaires ou pour les régularisations médicales. Theo Franken aujourd'hui, qui quand il était dans l'opposition face à Marie de Blocq, n'arrêtait pas de dire qu'il pouvait faire encore mieux, doit aujourd'hui, alors qu'il occupe le poste, faire ses preuves de fermeté. Et on voit que l'approche qu'ils ont de leur job, c'est cette approche de fermeté, faire du chiffre. On l'a vu, je prends un exemple, sur les régularisations médicales. La semaine dernière, le cas du petit Joël, ce garçon rwandais de 5 ans qui souffre d'une grave maladie, on veut le renvoyer au Rwanda où les soins ne sont pas disponibles. Ça équivaut à le renvoyer vers une mort à moyen terme. Il aurait pu rentrer dans le critère régularisation médicale. La fermeté et le retour du balancier où on serre les vis fait en sorte que des cas où tout le monde se dit, et n'importe quel médecin qui est objectif, qui voit son dossier médical, dit « ce petit garçon, il doit se faire soigner ici ». Eh bien, pour l'Office des étrangers, suite à des instructions de M. Franken, c'est « on refuse un maximum de monde ». En pratique, si on ne prouve pas qu'on court un risque de mort dans les 3 mois à venir, on est refusé pour raison médicale. Et cette dérive-là, elle est absolument inacceptable. Alors, pour répondre à votre question, si c'était pour ça qu'on avait besoin d'un secrétaire d'État spécifique asile et migration, je dis non merci, parce que ça ne va pas. C'est la politique du chiffre, c'est le bilan chiffré qu'on veut présenter à la prochaine échéance électorale. Marie de Blocq a bâti sa popularité tant du côté flamand, mais aussi du côté francophone, en faisant passer des choses mais inacceptables sous couvert de bon sens. Je prends un dernier exemple. L'histoire du plombier afghan qui a secoué la Flandre pendant quelques mois, Marie de Blocq voulait absolument le rapatrier. Quelqu'un qui était arrivé comme mineur, qui a été à l'école, on lui a financé un diplôme, il est devenu plombier, il travaillait et à un moment donné, il a reçu un ordre de quitter le territoire. C'est un métier en pénurie. Toutes les demandes de lui octroyer un titre de séjour ont été rejetées. Marie de Blocq en a fait un cas de principe. Elle a été fort suivie dans l'opinion publique flamande. On a applaudi des deux mains en disant « il faut de la fermeté, effectivement, il faut le renvoyer en Afghanistan ». Tout le monde savait que un an après, il allait pouvoir revenir légalement, ce qu'il a fait. Ce que Marie de Blocq n'a pas dit, alors que d'autre part, ils disent « les deniers publics, il faut en prendre soin et pas dépenser trop et bêtement », eh bien, la facture du rapatriement, c'était plus de 14 000 euros à charge du contribuable, juste pour faire un cas d'école, pour montrer qu'on est ferme et pour gagner des voix. Et ça, c'est un discours et une des attitudes populistes qu'il faut absolument rejeter.
François de Smet, avant de vous repasser la parole, Sarah Prestiani, est-ce qu'en fin de compte, on peut aborder la question, le débat migratoire, sans faire de l'idéologie ?
Alors, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est possible. Et je crois qu'il faut oser amener un mot que Alexis de Soie vient d'amener, qui est l'opinion publique. Parce qu'on peut évidemment, et on doit le faire dans une série de circonstances, critiquer l'action des pouvoirs publics, mais ces gens sont élus et reflètent ce qu'ils pensent être la volonté d'un certain électorat. Et il faut reconnaître que
c'est un peu le feu la poule, on ne sait pas.
Bien sûr, mais il faut reconnaître que cette ambivalence qu'on peut reprocher aux politiques, elle est aussi présente chez une bonne partie de l'opinion publique. Il y a un syndrome, il y a pour moi une sorte de syndrome NIMBY inversé. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez les
NIMBY, not in my backyard,
voilà,
pas dans
mon jardin. Les chiffres et leur côté totalement abstrait. Si vous faites un sondage de base, vous allez apercevoir que globalement, les gens ont plutôt une vision fermée de ce qu'il faudrait faire vis-à-vis de la migration. Mais à côté de ça, vous allez trouver plein de cas de gens qui vont se battre pour le fils du voisin candidat réfugié, le petit Joël, ou des cas qui polarisent l'attention de l'opinion.
Parce que tout à coup, c'est une personne, ce n'est plus une statistique, c'est un être humain.
Et le bienfait d'exposition comme celle que madame promeut et à laquelle participe, c'est de parfois arriver, comme le disait Alexis, à faire en sorte que l'effet de contraste arrive. Il y a cette photo extrêmement célèbre de Rosé Palasson dans l'enceinte de Melilla, je crois, voilà, où vous avez cette golfeuse qui aligne un swing en avant-plan, et à l'arrière-plan, vous avez ces grappes de migrants qui essayent d'échapper à la police et de passer en territoire européen.
Alors, cette photo est tellement choquante qu'on a même vu sur les réseaux sociaux des gens douter de la véracité
elle est pourtant,
de la photo.
Elle est pourtant authentique et elle permet d'avoir en un cliché, il y en a peu, hein, vous pouvez évidemment avoir des tas de clichés de migrants désespérés, mais vous avez à la fois, comment vous dire, l'insouciance, voire l'indifférence ou la non-connaissance du citoyen lambda par rapport à la détresse de gens. Il faut savoir qu'un trajet migratoire, et ça c'est quand même une donnée fondamentale, les raisons pour lesquelles les gens migrent, c'est quand même une aventure de vie extraordinaire, de laisser tout derrière soi, de prendre le risque de sa vie. Et nous traitons facilement les choses selon les... Nous nous disons qu'il y a des motifs légitimes, ceux qui veulent fuir une dictature, c'est chouette, ceux qui veulent fuir la misère, ça l'est quand même moins. Enfin, philosophiquement, il faudrait quand même se demander aussi dans notre réflexion s'il y a vraiment un motif de migration parmi d'autres, et si c'est philosophiquement tellement mieux et plus moral de quitter une dictature pauvre qu'une démocratie où vous crevez la faim. Et donc ça, c'est des débats, et je pense qu'on peut avoir ce rôle-là aussi, qu'il faut aussi amener au niveau de l'opinion publique du débat migratoire général.
Alors Sarah Prestiani, justement, le travail du photographe, le travail du journaliste, c'est d'alerter l'opinion publique. Vous avez le sentiment dans votre travail que vous permettez au grand public, hein, je sais que c'est une abstraction, mais aux gens qui n'ont pas de connaissances ou qui ne s'intéressent pas particulièrement à la question, est-ce que vous avez l'impression de leur apporter de l'information nécessaire pour leur ouvrir les yeux sur une réalité dont qu'ils ignorent, ou est-ce qu'en fin de compte, vous ne parlez qu'aux convaincus?
Non, moi je pense que des instruments tels que la cartographie qui essaie de décrypter ce qui sont les réalités des politiques migratoires et leurs effets, la photographie qui essaie de donner des visages à une réalité qui est parfois obscure à certaines parties de la société civile, si ainsi on peut l'appeler, mais aussi les paysages sonores qui accompagnent cette exposition, c'est des instruments qui touchent aussi une partie de la population qui n'est pas forcément ceux qui sont les convaincus. Donner une dignité à travers les photos, c'est très important. Je vous donne un exemple. Quand on a évacué la jungle des Calais, la photo, dans ces cas-là, par le gouvernement, a été utilisée comme un instrument à sa faveur. Donc, ils ont envoyé ces photographes et du coup, c'était les migrants au milieu de la misère et donc justifiaient cette opération manu militari d'évacuation des réfugiés afghans, somali-érythréens de la région des Calais. Moi, je suis allée dans les longs termes, plusieurs fois dans les Calais. Et ce que j'ai vu, c'était une profonde dignité qui m'est exprimée dans ses regards droit dans les yeux, qui déroute complètement cette politique mortuaire, parfois aussi, ou en tout cas sécuritaire, de gestion de la migration. Donc oui, la photo avec ses regards profondément dignes des migrants peuvent dérouter et peuvent les politiques européennes de la gestion de la migration et peuvent véhiculer des messages absolument différents. Et cette exposition veut aussi véhiculer à travers... un discours politique. Cette exposition, c'est un peu l'ensemble d'un travail que les réseaux Migrop mènent depuis 10 ans. Un travail de sensibilisation, d'information, de décryptage. Les modules de cette exposition sont 5. Ils parlent d'un 3 de ce qui est la réalité des contrôles migratoires, de l'enfermement, de la technologie aussi, de la gestion de la frontière. Donc la déshumanisation de cette politique de gestion de la migration. Et les 2 autres modules, c'est des scénarios qui... et mène à la réflexion. Un scénario de l'horrible qui, malheureusement, touche souvent la réalité. Donc, avec, on a, par exemple, une photo des migrants qui tranchit les canals de Sicile. En voyant arriver à Lampedusa ces migrants, on comprend que ça, c'est vraiment le scénario horrible de pousser des migrants, puisqu'il n'y a pas de voie d'accès légal au territoire européen, à prendre la mer avec leurs enfants. Ça, c'est un scénario horrible. Mais aussi, nous avons voulu conclure avec un scénario positif, qui est les message politique que Migrop veut mener, celui de la liberté de circulation, avec, comme disait Alexis, ses étapes, mais un scénario qui est tout à fait possible, envisageable et absolument souhaitable.
Alexis Dessoy, vous vouliez réagir à ce que disait François Dessoy tout à l'heure.
Sur l'opinion publique, sur les citoyens, je crois qu'il y a une responsabilité des politiques qui, par leur discours, finalement, ouvre les vannes et le citoyen qui entend ce discours-là se sent finalement autorisé à reprendre ses idées. Je prends 2 petits exemples. Emmanuel Valls en France sur les Roms, le discours qu'il a tenu sur les Roms, extrêmement stigmatisant. Théo Franken qui n'arrête pas d'insister sur les criminels illégaux pour finalement aboutir aux illégaux criminels avec beaucoup d'amalgame. Quand on entend ça au débat du dimanche midi au journal télévisé, le citoyen entend cela et se croit donc autorisé à finalement dévoiler aussi la face plus sombre dans sa personnalité, de rejeter l'autre par peur, parce que les responsables politiques jouent sur ses peurs. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité de nos politiques sur la cohérence de notre politique internationale. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Syrie, avec tous les dégâts collatéraux, si on peut encore appeler ça un dommage collatéral, c'est ces vagues de migrants qui partent dans les pays voisins, et puis dans les bateaux en Méditerranée, c'est principalement des Syriens, mais aussi des Érythréens. Et quand on voit les pays d'origine, la politique internationale, elle a ses responsabilités. La Belgique continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qui est le principal fournisseur d'armes à l'organisation terroriste État islamique, qui crée toutes ces migrations, tous ces Syriens qui traversent la frontière. Le Liban est confronté à une vague de migrations, plus d'un million, un million et demi de Syriens qui sont sur son territoire pour un pays qui compte 5 ou 6 millions d'habitants. Là, le problème est criant. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des responsables politiques ici qui font la fine bouche par rapport aux quotas, par rapport aux nombres avancés par les instances européennes. Un signe d'humanité de M. Franken, ce serait par exemple, en Belgique, nous avons des personnes qui sont devenues belges, qui sont d'origine syrienne. Il y a des membres de leur famille qui sont aujourd'hui au Liban, qui font partie de ce million et demi de réfugiés. Eh bien, accorder des visas humanitaires pour des personnes, des réfugiés syriens qui sont dans les pays voisins et qui ont un lien de famille avec des Belges ici, accorder un visa humanitaire hors tout quota à ces personnes-là, ce serait finalement la moindre des choses, mais malheureusement, pour l'instant, ils n'y pensent même pas. Et cette politique internationale, on voit aussi par rapport aux Érythréens. L'Union européenne a donné 360 millions d'euros à l'Érythrée pour qu'elle garde sa population chez elle. C'est une des pires dictatures au monde. Donc l'Union européenne, quand on voit les budgets qui étaient prévus pour Triton, c'était 10 fois moins.
Triton, rappelez-nous, c'est donc le programme de l'Union européenne en Méditerranée.
De sauvetage en mer, qui a maintenant été étendu, mais qui était rikiki l'année passée. On donne beaucoup plus d'argent aux dictatures pour qu'ils enferment leur peuple chez eux que pour trouver des solutions. C'est choquant.
François de Smet.
Oui, juste un mot pour appuyer certaines choses. C'est vrai que nous sommes aussi face à une crise humanitaire d'une ampleur rare, avec les événements en Syrie, avec l'Érythrée, avec... Voilà, et là, l'Europe n'est pas à la hauteur des événements. Pour le moment, même lorsque la Commission fait des propositions, alors c'est les États membres qui ne suivent pas. On est dans une gigantesque partie de ping-pong entre l'Union européenne, les États membres qui la composent, leur opinion publique respective. Or, tout le monde voit bien qu'on n'est quand même pas dans un cadre géopolitique qui va vers une accalmie dans les mois ou années à venir, de un. Donc un régime d'asile, de répartition plus cohérent, serait pourtant beaucoup plus logique.
François de Smet, il y a des mouvements populistes incroyables qui germent aussi en Europe. Alors cette pression de l'opinion publique, est-ce qu'elle est en mesure d'influencer la politique de l'Union européenne dans le bon sens ?
Moi, je crois que si on raisonne à partir des données chiffrées fiables, des droits des migrants, des droits de n'importe quel être humain, du fait que nous pouvons aussi nous mettre à la place des gens qui prennent ce risque migratoire énorme, alors on peut peut-être se mettre à la place de ces gens et avoir une réflexion sur des canaux migratoires légaux, notamment sur le travail, débat par exemple, que très peu de gens dans le spectre politique osent poser, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc là, je crois que la sensibilisation de l'opinion publique ou son information est une pièce majeur du débat.
Un débat que nous prolongerons lors d'une prochaine émission, celle-ci touchant à sa fin. Je vous remercie à tous les trois d'y avoir participé. Un dernier mot peut-être, Sarah Prestiani, au sujet de cette exposition Moving Beyond Borders qui se tient actuellement au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. Jusque quand peut-on la visiter ?
Jusqu'au 19 juin et donc au Centre culturel, et les rendez-vous pour aussi d'autres pays par la suite, parce que juste un mot, elle véhicule un message politique, militant et artistique, et donc son sens, c'est qu'elle soit véhiculés partout en Europe et au-delà de ses frontières.
Sarah Prestiani, Alexis Dessoy, François de Smet, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Bonsoir.